Ça vous dérange ? Ça vous dérange ? Éric Lange. Ça vous dérange ?
Faut-il être un dictateur avec ses enfants? C'est la question que nous posons aujourd'hui et que nous posons d'ailleurs sur le site internet de l'émission. Les réponses. Alors, les auditeurs disent non à 76,8%, oui 20% et ne se prononcent pas encore, 3%. On a pris cette phrase, faut-il être dictateur avec ses enfants? C'est tiré d'une interview que vous aviez donnée à Aldo Nauri dans le Nouvel Observateur, où finalement vous allez même plus loin, vous disiez il faut carrément être fasciste avec ses enfants pour en faire des démocrates plus tard.
Exactement les choses sur ce vote. J'ai dit que j'ai expliqué d'abord de façon extrêmement importante combien la position parentale assumée depuis la position parentale et non pas du tout dans une relation de mettre l'enfant à son propre niveau, c'est-à-dire on est le parent et l'enfant, cette position-là, c'est ce qui va aider l'enfant à grandir et à se structurer. Pouvoir éventuellement illustrer, j'ai dit élever son enfant sur un modèle démocratique, c'est-à-dire en se mettant face à face sur un pied d'égalité, c'est le meilleur moyen d'en faire un fasciste plus tard, alors que cette manière d'élever un enfant sur un mode autoritaire qui ressemble à du fascisme, c'est le meilleur moyen de faire de lui plus tard un démocrate.
Voilà, Aldo Nauri, donc, qui est entré de plein fouet dans le débat. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre et auteur du livre « Éduquer ses enfants en urgence aujourd'hui ». Avec nous dans le studio, Olivier Morel. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez professeur de lettres et maintenant vous êtes président de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et vous aussi vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « La fessée », donc contre les violences éducatives.
Exactement.
Avant de commencer, on va écouter un reportage réalisé par Elisa Portier qui a rencontré des enfants, des parents et puis il y a un ado au milieu de tout ça. Écoutez. Oui.
La gifle, les claques et les fessées, vous en pensez quoi, vous?
Bah, pas bien. On sent pas bien, plus que ça fait mal.
Moi, des fois, je trouve que c'est injuste. Mon père, il me dit un truc, je lui réponds par un geste, mais qui n'est pas méchant du tout. Et puis, il me sort une gifle. Alors, des fois, c'est vraiment injuste.
Faut plutôt demander aux parents, ça, en fait.
Ouais, mais je vais leur demander aussi. Mais c'est intéressant d'avoir votre avis, à vous aussi.
Bah, en fait, je crois ça me fait mal et après, du coup, je pleure.
Un jour, j'avais trop énervé ma maman et puis elle disait « tu vas te prendre une baffe » et puis moi, je disais « même pas vrai », elle m'en a donné une.
Oh ! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans ta tête ?
Eh bah, maintenant, je fais attention qu'elle ne me mette pas de baffe.
D'habitude, quand les parents ils nous donnent une gifle, bah, c'est que en fait, en gros, on l'a cherchée.
Papa, il m'a donné une gifle, mais ça faisait super, 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 super mal.
Mais ça veut pas dire non plus que si on dit je veux une gifle, ils vont nous en donner. Hein.
Des fois, t'as des gens qui essayent pas d'expliquer pourquoi ils font ça, qu'est-ce que t'as fait de mal. Ils font toujours le geste. Alors bon, faudrait faire un truc, je sais pas moi, un truc moins douloureux que la gifle.
Ah oui, parce que c'est douloureux. Hein.
Ah oui, surtout sur la joue. Mais après, tu te dis peut-être que j'y suis allé un peu fort, peut-être que j'ai fait vraiment quelque chose de mal. Alors tu dis vraiment, j'ai envie de lui présenter mes excuses.
Jonathan, nous on n'a pas géré. On était dans la discussion alors qu'il avait 5-6 ans et je pense que c'est une erreur. Une erreur parce que la discussion, il n'est pas à même de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est trop lui demander par rapport à son âge. La gifle, c'est un autre compromis qui, sans explication, sert strictement à rien. Donc après, trouver le bon compromis, pour moi, c'est super difficile. Hein. Jonathan me dit qu'il n'en a pas eu assez.
T'as quel âge, Jonathan ?
Assume !
19 ans.
Alors, on n'a pas eu assez ?
Non, pas eu assez. Parce que j'étais trop perturbant. Donc j'aurais dû mériter plus de baffes. Il me semble quand même.
Il n'est pas trop tard.
Non, sur certains moments, c'est vrai que des fois, ça recadre bien. Et c'est vrai que j'en aurais mérité quand même quelques-unes que j'ai pas eues et qui me semblent auraient été bien.
Tu sais lesquelles tu n'as pas eues ?
Ouais, je m'en souviens. Hein.
Alors lui, il se souvient des baffes qu'il n'a pas eues. C'est quand même génial. Là.
Ouais, je me souviens, mais trop tenu aussi. Quoi.
Le papa.
Et donc, effectivement, bon, bah, c'est plus par la parole, le discours. Et bon, ça marche pour une journée, quoi. Hein. C'est un travail de longue haleine. Hein. Et je pense que tu as compris aussi quelques, certaines choses en grandissant.
Avec, le temps, le temps, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on comprend, mais je sais pas. Bah, moi, je pense que les claques que j'aurais méritées et que j'ai pas eues, bah, pour éviter certaines erreurs, bah, je le ferais pour genre mes enfants ou un truc comme ça. Quoi.
Mais tu es plutôt de l'autre côté. Quoi.
Non, sur certains trucs, c'est vrai qu'il y a des baffes que j'aurais dû mériter et que voilà, j'ai pas eu. Moi, je pense que pour mes enfants, j'aurais fait, quoi. Enfin, je sais pas, ouais. C'est assez compliqué comme histoire.
C'est assez compliqué comme histoire. Mmh. Il y a beaucoup de réflexions dans ce reportage. Bon, il y a une chose, je crois, où vous êtes d'accord, avant de passer au point de désaccord, c'est la violence physique, non, Olivier Morel.
Entièrement, oui. Entièrement, parce que, et pas seulement, là, il faudrait pas quand même qu'on se sente uniquement sur la gifle, parce que c'est les punitions corporelles en général qui sont multiples, et pour le simple fait qu'elles nous font admettre le principe qu'on a le droit de frapper un enfant. Et à partir du moment où on a le droit de frapper un enfant, il est inévitable que sur le nombre de parents, il y ait une certaine proportion qui passe à un degré plus élevé, c'est-à-dire à la maltraitance caractérisée, soit parce que ils ont eux-mêmes été frappés très fort dans leur enfance et ils répètent ce qu'ils ont subi, soit parce que ils ont du stress dans la vie, leur vie quotidienne, soit encore parce que l'enfant réplique en disant même pas mal. Ah, tu m'aimes pas mal, ben tu vas voir. Et là, donc, il y a, on se rend pas compte, je crois, qu'en parlant surtout des punitions qu'on juge bénignes, comme la gifle et la fessée, on se rend pas compte qu'en réalité, on accepte un principe qui est inacceptable, qui a été contesté et annulé pour la majorité des aides, pour tous les êtres humains. Au 19e siècle, on a interdit de frapper les domestiques, par exemple. On a interdit qu'on frappait avant. On a interdit de frapper progressivement les femmes, ça se fait encore, mais en fait, c'est interdit. On a interdit de frapper les prisonniers, les gardiens de prison et les policiers n'ont plus le droit de frapper les prisonniers, ça se fait encore, mais c'est interdit. Ils peuvent porter plainte. On ne frappe plus les équipages de bateaux alors qu'on le faisait avant, on les fouettait. Hein. Donc, ça, tout ça, ça a été interdit. Il ne reste plus.
Sauf les enfants.
Il ne reste plus que les enfants, c'est-à-dire la catégorie d'êtres humains les plus fragiles et ceux sur lesquels ça peut avoir les conséquences les plus graves. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on en prenne conscience.
Aldona Ori, vous êtes d'accord aussi? Pas de violence.
Je suis totalement, mais totalement d'accord avec l'analyse que vous faites, monsieur. Et mais alors à 100%, mais je n'ai pas la moindre rétention.
Même
je
pour dis la petite.
Pardonnez-moi. Alors j'écris d'une façon extrêmement claire dans mon ouvrage que je suis contre tous les châtiments physiques, y compris la tape sur la main. Vous voyez jusqu'où je vais. Bon, pourquoi? Parce que c'est véritablement un échec. Un échec de la position parentale. C'est-à-dire que c'est l'émanation du doute profond qu'il y a dans le parent, à savoir qu'il est là, que sa position de parent est suffisante pour imposer sa parole à son enfant. Et de ce côté-là, il est fondamental que tous les parents reprennent confiance en eux et sachent jusqu'à quel point ils sont importants pour les enfants, qu'ils sachent également que l'enfant est un être qui est traversé par des pulsions de façon extrêmement violente, parce qu'il est lui-même soumis à la violence de ses pulsions, et que le meilleur moyen de punir un enfant, ou en tout cas de donner à cet enfant la possibilité de résister à ses pulsions, c'est de suspendre pour un temps la communication que l'on a avec lui et qui, pour lui, est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire qu'on l'isole dans un coin et on décide que on décide soit, et on lui dit pas combien de temps tu veux rester puni. On dit tu vas rester jusqu'à ce que, éventuellement, je décide que je reviendrai te voir. Et on ne s'excuse pas, surtout.
Alors, on va venir justement dans le débat dans un instant.
Ça suffit largement et ça ne nécessite pas qu'on rentre dans la violence.
Avec vous, au standard, au 01 45 24 7000, allez-y, on ouvre le standard. Vous pouvez nous rejoindre, 01 45 24 7000, vos commentaires, bien sûr, sur le site de l'émission, franceinter.com. Le débat en lui-même, donc, va porter dans un instant aussi sur les solutions, parce que là, en revanche, vous n'êtes pas d'accord, le dialogue, ou pas, imposer les règles ou pas, expliquer pourquoi faut pas mettre les coudes à table ou pas. On en parle avec vous dans un instant, ce sera après Grace sur France Inter, Imagine One Day, 01 45 20. Faut-il être un dictateur avec ses enfants? Vous êtes plusieurs d'ailleurs à réagir sur Internet, me dire mais oui, il faut être sévère, mais le terme dictateur est trop fort. On y reviendra tout à l'heure, Aldo Nauri. Mais Aldo Nauri, vous êtes l'inventeur d'une formule, l'infantolatrie.
Oui.
Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux, mais expliquez-nous ça d'abord, Aldo Nauri. Donc ça, c'est juste pour dire l'enfant roi domine
voilà.
La famille.
Voilà, mais qui est allé en s'accentuant, sa majesté le bébé, ça existe depuis très longtemps. Mais c'est simplement que nos sociétés de consommation ont eu intérêt à vanter en quelque sorte non seulement la qualité, mais l'extraordinaire importance que revêt l'enfant et l'enfance, et faire en sorte que justement ce soit une cible, si bien que on a décidé que cet enfant avait un potentiel tellement considérable qu'en définitive il était simple de l'accompagner, de discuter avec lui, de parler avec lui, de l'honorer, de le mettre au sommet du dispositif familial, d'en faire justement l'être le plus important qui soit dans l'existence, aussi bien de la mère que du père, et de faire et de le mettre, si vous voulez, au centre même du dispositif. C'est ça que j'appelle l'infantolatrie, c'est-à-dire véritablement nous procédons en tant que parents pour le bien-être de nos enfants d'abord et avant tout. Et je dis que ceci est une chose nocive pour l'enfant lui-même.
Olivier,
pour une raison extrêmement simple, c'est que justement il ne faut pas oublier que c'est un être vivant qui vient au monde sous l'emprise d'une violence considérable qui est celle de ses pulsions. Et ces pulsions-là, elles, vont générer chez lui un dilemme si grand qu'il est fondamental de lui apprendre à les réprimer, c'est-à-dire à véritablement dresser contre cette violence sa propre violence. Et il ne peut l'avoir que dans la mesure où justement il a des parents pour l'aider, et des parents dont l'amour est pour lui si grand et qu'il est fondamental qu'il le conserve, c'est-à-dire qu'on n'a pas à mettre l'enfant au sommet de la pyramide familiale, mais le mettre en position telle qu'il doit être, c'est-à-dire à la génération du dessous, étant entendu que les parents étaient là avant. Autrement dit, au lieu de dire l'enfant d'abord, je propose qu'on dise le couple parental d'abord, l'enfant après.
Olivier Morel, cette analyse de l'infantolatrie, donc
alors,
ça vous...
Oui, moi je souhaiterais, avant de parler d'infantolatrie, je souhaiterais rappeler que 80 à 90% des enfants sont frappés, en France et dans le monde. C'est les proportions que donnent toutes les enquêtes. Il me semble que si les enfants étaient idolâtrés, on ne les frapperait pas. C'est quand même un fait à rappeler.
90% c'est une...
Ah oui, un des derniers sondages en France a été fait en 2000, je crois, et il donnait 84% d'enfants frappés. Et dans tous les pays, c'est pratiquement
alors,
90%.
Si vous permettez...
Excusez-moi, je voudrais terminer.
Oui,
c'est important.
Il y a un paradoxe, mais
d'autre part, notre mode de vie, et là, j'attaque pas du tout les parents, mais le fait est que notre mode de vie soumet les enfants à d'autres frustrations qui ne sont pas qui ne sont pas volontaires, mais je pense à tous ces enfants qu'on est obligé d'aller amener à l'école bien avant l'heure de la rentrée, qu'on est obligé de reprendre bien après l'heure de la fin des classes parce que les parents travaillent, c'est pas de leur faute, hein. Mais ça c'est une frustration terrible et je trouve pas que les enfants sur ce plan-là soient idolâtrés. D'autre part, alors, tout à fait d'accord avec le docteur Nauri sur la place de la publicité et de la consommation, c'est vrai qu'il y a eu une exploitation scandaleuse des enfants pour faire acheter. Mais pour ce qui est des pulsions, tout le livre du docteur Nauri est fondé sur l'idée des pulsions, la théorie des pulsions de Freud, que personnellement je conteste absolument.
Vous avez le droit.
Et je crois que c'est important. On n'aura pas le temps d'en reparler.
C'est ce qui fait la différence de notre appréciation et de notre point de vue. Et quand vous dites que 90% des enfants sont battus, donc ils ne sont pas idolâtrés, je dis là que c'est un paradoxe et qu'il faut impérativement reprendre la chose. Je dirais que 90% des enfants sont frappés parce qu'ils sont idolâtrés. Pour une raison simple, c'est que le fait même qu'ils soient idolâtrés fait qu'on ne les aide pas à réprimer leurs propres pulsions, qu'ils dépassent les limites et que les parents n'ont pas d'autre solution à ce moment-là, se sentant débordés, que de taper sur la main, taper la fessée, etc., etc. Le jour où les parents comprendront que leur position parentale est largement suffisante pour imposer leurs décisions à leurs enfants sans que les enfants aient de quelque manière que ce soit à la discuter, ce jour-là, on n'aura plus d'enfants battus.
Vous mettez la responsabilité sur les parents, alors?
Je mets la responsabilité sur le malentendu
que notre discours sociétal met en place en disant justement aux parents, vous êtes au service de vos enfants. Et quand on me dit, les enfants sont frustrés parce qu'ils sont amenés à l'école avant, ils sont retirés de l'école après, je dis ça, c'est un discours idolâtrant. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que un enfant est capable de s'accommoder de toutes les situations qu'on lui donne à partir du moment où précisément ces situations qui lui sont données sont données sur le mode serein, tranquille, et sans que à aucune espèce de moment il n'y ait de discussion autour. C'est-à-dire, je vais travailler, d'accord ? Il faut que je travaille, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas à me poser de questions. Mon enfant, je le pose à la crèche, il est parfaitement capable d'accepter le fait si je ne suis pas dans le remords.
Alors là, vous divergez parce que vous, Olivier Morel, vous dites, il faut lui expliquer justement.
Voilà.
Il faut lui dire...
Oui. Mais je voudrais dire que ce que vous dites était vrai, oui, l'infantolâtrie remonterait à la nuit des temps, parce que les 90%, c'est depuis pratiquement des millénaires que ça se passe comme ça. Pas de l'enfant roi. Et je voudrais ajouter autre chose.
Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire que l'infantolâtrie et l'enfant roi, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai dit que Sa Majesté Bébé, ça a toujours existé.
Et je voudrais ajouter autre chose. Vous démarrez votre livre sur l'idée qu'une éducation par la frustration, prise dès les premières années, permettrait d'avoir un meilleur système scolaire, et même une meilleure recherche, etc. Oui, la frustration, il faudra en parler. Mais je voudrais dire que paradoxalement, ce sont les pays qui ont le plus la réputation d'avoir développé l'enfant roi, c'est-à-dire les pays scandinaves, où on a interdit toute forme de punition corporelle, et ils ont tous interdit depuis 29 ans pour la Suède, 25 ans pour la Finlande, qui ont les meilleurs systèmes scolaires, les plus performants,
et le plus haut taux de suicide.
Plus efficace. Non, c'est faux aujourd'hui. Ça n'est plus vrai.
Attendez, je voudrais qu'on fasse un tour au standard, parce que vous imaginez bien que ça se bouscule. Laurence est avec nous. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous, éducation non violente et dialogue.
Oui, tout à fait.
Et ça se passe bien ?
Ça se passe fort bien.
Vous craquez jamais ?
On peut se mettre en colère, on a le droit, mais non, on ne lève pas la main chez nous.
Bon. Et en revanche, vous dites dans votre mail que vous devez vous battre contre l'école un petit peu.
Un petit peu, oui, parce que l'école est un système un peu plus... un peu plus dans le sens de Monsieur Naouri. Où l'enfant doit juste accepter ce qu'on lui donne sans discuter.
D'accord, donc vous discutez tout le temps avec l'enfant et ça se passe bien. Vous lui expliquez tout le temps quand
pas
vous
24 heures sur 24 non plus. Hein. D'accord. Mais sur beaucoup, beaucoup de choses, oui.
D'accord. Nicole est avec nous aussi. Nicole, bonjour.
Oui, bonjour messieurs.
Bon, alors vous, l'éducation laxiste, pas du tout. Hein. Il faut pas...
C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que le laxisme, non, c'est-à-dire qu'il faut avoir les mots justes, c'est-à-dire que c'est la fermeté, élever l'enfant dans l'amour, c'est-à-dire que quand il faut expliquer effectivement les choses, quand vous interdisez quelque chose, il faut expliquer le pourquoi, parce que sinon, si l'enfant comprend très bien, même s'il ne sait pas parler, il comprend très bien, il ne fait pas la bêtise. Donc ça, c'est une chose, et c'est vrai que avant de frapper un enfant, bien souvent, ça part d'un bon geste, mais comme ils sont maladroits, ça se donne une bêtise. Donc, il faut demander, expliquer pourquoi, avant de punir. Et puis, il y a différentes façons de punir. On peut faire, quand ils sont plus âgés, une dictée, une lecture imposée, des choses comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'ils sentent vraiment l'amour des parents. Et une gifle peut arriver, mais je suis pas pour les gifles, je suis plus pour les fessées. Mais ça, c'est vraiment en dernier ressort. Et en plus, l'éducation, il faut l'adapter au tempérament. Autant un enfant, vous, dans une même famille, vous pouvez pas l'élever de la même façon. Il y a une façon d'élever chaque enfant à un tempérament différent. Il faut comprendre et les deviner. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut, il faut inculquer. Quand on explique aux enfants la responsabilité, quand on leur demande pourquoi, on l'explique pourquoi. Ça, c'est une chose que tu fais, mais ça entraîne autre chose. Ça entraîne autre chose, comme les enfants qui ont jeté les pierres sur le bébé. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut expliquer. C'est la responsabilité des parents. L'enfant roi, ça, c'est pas bon. Et l'enfant qui ne sont pas assez, comme le jeune homme de 19 ans, qui, lui, n'a pas été, assez réprimandé. Ben, c'est-à-dire que il y en a qui sont vicieux aussi. Vous avez des enfants qui aiment la fessée. Donc, tout ça, il faut analyser tout ça. D'accord. Et c'est vrai qu'on a le résultat quand on élève les enfants avec la confiance, l'amour, la compréhension, l'explication. Et c'est la fermeté qui vaut. Et quand on dit quelque chose à un enfant, il faut que les parents, l'enfant sente que chez vous, il y a non. Parce qu'il y a des parents qui disent non, mais il n'y a pas non à l'intérieur d'eux. Et l'enfant le ressent. Et c'est pour ça qu'il n'obéit pas.
Merci Nicole. Explication ou pas explication alors quand on discute avec un enfant? D'abord Olivier Morel, je vais demander, parce que vous êtes pour le dialogue, une espèce de communication permanente.
Pour le dialogue, mais pas obligatoirement des dialogues interminables. Hein. On dit ce qu'on a à dire, on peut le dire brièvement. Je ne suis pas du tout pour une éducation laxiste. Je crois que les parents doivent être fermes. Mais le problème, je crois souvent, c'est que on manque de confiance en soi. Souvent, cette confiance en soi, on la doit au fait, justement, qu'on a été traité avec mépris et peut-être avec autorité, une autorité excessive. Et donc, on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ces enfants.
Et ils sentent bien qu'en doute, les enfants, ils sont mal.
Il faut qu'il y ait de la fermeté et qu'on sache ce qu'on veut, qu'on ait confiance en soi et aussi confiance dans les enfants.
Pardonnez-moi, monsieur, vous avez fait état tout à l'heure du fait que vous étiez père de 5 enfants et grand-père de 8 petits-enfants. Moi, je voulais vous dire que j'ai exercé la pédiatrie pendant 40 ans, et que des enfants, outre les miens et mes petits-enfants, j'en ai vu une quantité phénoménale. Ce que vous dites par rapport à l'éducation est extrêmement intéressant, et aussi que ça puisse paraître, n'est pas contredit par la théorie des pulsions. C'est-à-dire que lorsqu'on devient parent, on se retrouve d'un seul coup remis face, mais brutalement, à la relation que l'on a eue à ses propres parents. Or, tous les parents, tous les enfants, sont condamnés autant à aimer leurs parents qu'à les haïr. Et ce qui revient au moment où on devient parent, c'est justement cette notion de haine que l'on a eue par rapport à ses propres parents. Et on se dit qu'on voudrait pas que notre enfant nous haïsse. Et ce que je viens dire, moi, aux parents, c'est quoi que vous fassiez, et quelle que soit la modalité d'élevage que vous prendrez, vous êtes condamnés autant à être aimé qu'à être haï. Donc, n'ayez pas de ce côté-là de doute et reprenez beaucoup plus confiance dans votre position. Vous ne ferez pas plus mal que vos parents et vous ne ferez pas moins mal qu'eux. De toutes les façons.
Oui, pardon. Vous, dans votre livre, vous dites carrément, il faut pas expliquer, il faut donner un ordre est un ordre.
Moi je dis un ordre, mais pour une raison simple, c'est que je n'ai pas, quand je dis mets ton manteau, je n'ai pas expliqué qu'il faut, etc.
On peut dire qu'il fait froid.
Quand on donne un ordre, on n'a pas à tomber tout de suite dans l'explication et l'excuse. Si l'enfant réclame une explication, bien entendu qu'on la lui donne, mais il n'y a pas de raison de la lui donner d'emblée, systématiquement.
Mais vous dites, tous les deux d'ailleurs, il faut que les parents soient sûrs d'eux et qu'ils ne doutent pas.
Chacun de nous le dit à sa manière.
Oui, mais on passe notre vie à douter.
C'est bien ce qu'il y avait de libérateur dans le propos freudien quand Marie Bonaparte lui a demandé « Mais comment fait-on pour bien élever des enfants ?» Il a répondu « Comme vous voudrez, de toutes les façons, ce sera mal. » Mais ce sera mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toutes les façons, l'enfant aura toujours quelque chose qui ne lui aura pas convenu dans la manière dont ses parents ont été avec lui, mais c'est ça qui est indispensable pour qu'il prenne son envol, sa propre distance et son autonomie. Et s'il n'y avait pas ça, il resterait totalement, mais complètement dans le cocon familial, il n'en sortirait pas.
Olivier Morel, vous, donc, cette discussion, il faut l'avoir, il faut avoir dialogue, il faut expliquer, mais comment fixer alors des règles, comment fixer un cadre?
Si on ne l'impose pas, comme
le dit Aldo Nauri.
C'est un peu difficile à expliquer brièvement. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a des conditions à établir pour que le terrain soit favorable, disons, au cadre. C'est que l'ambiance de la famille soit aussi agréable que possible. C'est des choses simples, hein, mais qui sont essentielles pour que les conflits, d'abord, ne soient pas trop fréquents, si possible, et que, quand il y a conflit, on puisse les régler, justement, par la discussion. On peut éviter, par exemple, d'accuser les enfants. On peut constater, quand il y a un désaccord, quand il y a un conflit, qu'il y a un problème. Il y a un problème entre parents et enfants. Comment peut-on le régler? Dans la mesure du possible, je crois qu'il faut essayer de le régler avec les enfants, sans pour autant céder si on estime que sur certains points, par exemple, que l'enfant se met en danger ou qu'il met en danger d'autres enfants. Bon, il faut être ferme. Dans certains cas, même, il faut le contenir même physiquement. Hein, un enfant qui, par exemple, frappe, on peut arrêter le fait qu'il le frappe, qu'il frappe un autre enfant. Donc, le contenir, mais en même temps, être toujours dans une relation qui fait qu'on attend de lui qu'il réagissent positivement. Non pas partir avec l'idée qu'il est un être, alors là c'est là que je suis pas d'accord avec Dr. Nauri, qu'il est un être qui veut absolument avoir la toute puissance sur les parents. Je crois que, personnellement, je crois que c'est faux. L'enfant est extrêmement faible et Il ne veut pas cela.
La toute-puissance en question, j'ai bien dit, en parlant de la toute-puissance infantile, qu'elle était illusoire. N'est-ce pas? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle est réelle.
Oui, vous insistez beaucoup sur cette notion.
J'insiste infiniment pour une raison simple, c'est que la position parentale face à cette illusoire toute-puissance de l'enfant, que l'enfant développe entre l'âge de 18 mois et 3 ans, cette toute-puissance-là, si jamais véritablement du côté parental, il n'y a pas la réponse adéquate qui consiste justement à ne pas se faire le servant de l'enfant, cette toute-puissance-là va parasiter cet enfant toute sa vie, y compris à l'âge adulte.
Mais on va revenir dans un instant, on va faire une pause. 01 45 24 7000 pour nous rejoindre. Finalement, c'est comme hier avec l'histoire de la psychanalyse, on reste dans la théorie. Je voudrais qu'on revienne là-dessus aussi.
Ça vous dérange?
Pourquoi tu discutes avec moi? Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête.
Elle voit tout dans ta tête.
Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Toute ta vie, tu seras comme ça, une rêveuse? Mais alors, ce sera quoi ta vie? Une souffrance? C'est ça que tu veux souffrir?
Quand j'entends les gens dire n'importe quoi, je flippe complètement. On dirait que tu fais tout pour me dégoûter, mais je m'en fous de ce que tu dis. Pour une fois que j'avais un but dans la vie, toi, tu veux tout gâcher. T'arrêtes pas de te moquer de moi, mais moi, je m'en fous. Et puis, de toute façon, si Clara m'emmène pas, je me tuerai.
Mais tu tueras comment?
Je me tirerai une balle à pain.
Charlotte, tu sais ce que ton père a dit si on touchait à son revolver?
Merde, vous me faites chier à la fin. Elle m'emmènera avec elle, je vous dis. Elle m'emmènera avec elle et je vous verrai plus, vous et vos sales gueules.
Eh ben voilà, t'as gagné le cocotier. Regarde-moi ça, mais regarde-moi ça comme elle transpire. On dirait une vieille mule.
Je vais te scalper, vieille doudou.
Allez, calme-toi, folle. Allez, repose-toi, ma belle.
J'ai mal à la tête à cause d'elle.
Mais c'est pas vrai, elle a rien fait, Charlotte. Elle est juste là à se reposer. Allez.
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont dans le film de Claude Miller, L'Effronté. Je voulais revenir un petit peu sur cette histoire de, parce qu'à un moment, Aldona Ori, dans votre livre, vous dites carrément que la discussion entraîne un bouleversement de la hiérarchie. Vous n'avez pas un peu trop loin?
C'est pas la discussion, c'est pas la discussion, c'est la justification. C'est-à-dire quand un parent se justifie auprès de son enfant, il demande à son enfant de se faire juge de son comportement. À ce moment-là, ça inverse la hiérarchie, dans la mesure où l'enfant, se trouvant juge du parent, se met au-dessus de lui. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, parce que l'enfant, ce qui se passe, là encore une fois, je vous prie de m'excuser, monsieur Morel, mais je parle de choses que vous contestez, nous sommes tous travaillés par l'angoisse de mort. Cette angoisse de mort, elle survient dans notre existence à la fin de la première année. Et comme nous sommes très très angoissés quand nous sommes petits par la mort, et que nous ne parlons que de cela, aussi curieux que ça puisse paraître, même si monsieur Morel n'y croit pas, eh bien, nous nous trouvons dans une situation qui est telle qu'en définitive, ce qui nous protège, c'est de savoir que notre parent est là. Et que tant qu'il est là, en définitive, on peut mettre cette histoire de mort de côté. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de nous. Mais si jamais, dans une justification qu'il entreprend à notre endroit, il nous met au-dessus de lui. Le message implicite qui est là, c'est question mort, on est exactement du même ordre. Hein? Et hop! Et c'est un coup de fouet donné à nouveau à l'angoisse de mort.
Olivier Morel.
Alors oui, je voudrais revenir sur cette question de la hiérarchie sur laquelle vous insistez beaucoup, sur la question de l'autorité, même de l'autoritarisme et de l'éducation
Non, pas autoritarisme.
Non, c'est vrai, exact. C'est vrai. Mais vous parlez en tout cas d'éducation dictatoriale et fasciste. Oui. Je voudrais bien dire que c'est totalement démenti par l'histoire et même par la sociologie.
Ah bon?
En ce sens, oui, parce que en Allemagne, l'éducation à la fin du 19e siècle et au début du 20e, celle qui a formé les générations qui ont obéi au nazisme, c'est une éducation extrêmement autoritaire et violente. On a vu ce que ça a donné. Et ça, alors, il y a un contre-exemple qui est extraordinaire, c'est que un couple d'Américains a fait une étude sur 406 justes. Vous savez, ces Européens, hommes et femmes, qui ont sauvé des quantités de juifs pendant la guerre. Donc, ils les ont interrogés sur leur éducation pour savoir comment ils avaient eu le courage de faire cela, comment ils avaient eu le courage de désobéir à des ordres, à des lois, de s'affronter à l'opinion publique, qui était en grande partie antisémite. Et alors, les réponses qu'ils ont données, les quatre réponses qui sont revenues le plus souvent, c'est, primo, ils ont eu des parents affectueux. Bon, les parents affectueux, la majorité des parents sont affectueux. Deuxièmement, ils ont eu des parents qui leur ont enseigné l'altruisme. Là aussi, dans l'Europe du XXe siècle, bon, c'était le christianisme, en gros. Troisième point, beaucoup plus rare, là, ils ont eu des parents qui leur ont fait confiance. Ça, c'est plus difficile. Hein, quand on est parent et qu'on les aime, je termine, docteur. Oui. Et le quatrième point, c'est qu'ils ont eu une éducation non autoritaire et non répressive. Alors d'un côté, vous avez le nazisme formé par l'éducation autoritaire, et de l'autre côté, des gens qui ont eu une éducation non autoritaire à une époque où l'éducation était pourtant autoritaire.
Elle était autoritariste. Ça n'a rien à voir. L'autoritarisme, c'est véritablement l'autorité du faible. Oui, c'est-à-dire que quand le père de Schreber était capable d'inventer des appareils pour que les enfants ne se masturbent pas, pour que les enfants ne mettent pas leur coude sur la table, pour les enfants, etc., etc., ça, c'est d'un maltraitance, et on ne parle pas d'autorité, là. L'autorité, c'est véritablement la mise en place d'une relation simple et tranquille d'un individu à un autre individu. Et croyez-moi, ça suffit largement pour mettre en place et l'affection, et la confiance, et le reste.
Oui, mais excusez-moi, vous-même qui avez parlé d'éducation fasciste et dictatoriale, moi.
Je n'ai pas parlé de... D'abord, dictatoriale, je n'en ai pas parlé.
C'est une citation de vous.
Désolé, M. Naouri, je l'ai aussi, la citation, dans le Nouvel Obs.
La citation du Nouvel Obs est tirée et simplement un commentaire par rapport à quelque chose que j'ai écrit dans mon livre et où j'ai, après avoir longuement expliqué, j'ai dit que il s'avérait qu'on se rendait compte que d'élever son enfant sur le mode démocratique était le meilleur moyen d'en faire plus tard justement un dictateur, parce que la toute-puissance infantile fera que de toutes les façons, il n'en aura pas été débarrassé, et tout devra donc tourner autour de lui, et il devra imposer son point de vue à tout le monde, alors que justement, le débarrasser au moyen d'une éducation autoritaire de type fasciste, puisqu'elle consiste éventuellement à lui dire « tu fais cela, un point c'est tout », et le faire, et le dire sans regret, sans remords, sans difficulté, et sans aucune espèce d'état d'âme, ça... Effectivement, ça ressemble à du fascisme. Et ça fera de lui un démocrate plus tard, parce que, justement, ça lui permet de se débarrasser de cette fameuse toute-puissance.
Alors, attendez, je voudrais vraiment qu'on fasse un tour au standard. Il y a beaucoup de monde est là, parce qu'il y a un problème dont on n'a pas parlé aussi, c'est savoir dire non. Et c'est vrai qu'on a tous du mal à dire non, mais pas seulement dans le domaine de l'éducation. Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue en émission. Je vais demander d'être court parce que l'heure file.
Je serai bref.
Oui.
Premièrement, Monsieur Morel, qui aime les enquêtes, se doit se rappeler que des enquêtes ont été faites sur les enfants de ce Meryl, qui étaient élevés en totale liberté. Ils sont tous, pour leur très grande majorité, devaient rentrer dans l'armée ou à la gendarmerie. Ensuite, je fais chambre d'hôte et table d'hôte, et je suis effondré de recevoir de plus en plus de jeunes parents qui, c'est pas une question de fessée ou de traitement physique, ne disent jamais non à leurs enfants. Conclusion, ils en arrivent avec des enfants de 5 ans à dire « je négocie ». Or, le résultat de la négociation est toujours à l'avantage de l'enfant qui devient une sorte de mini-dictateur. Les parents emploient n'importe quels arguments, on va pas aller à la plage alors qu'ils y vont le lendemain évidemment, on va pas faire ci, on va pas faire ça. L'enfant ne refuse, on ne lui dit jamais non. Et ça donne, je suis très inquiet de ce que deviendront ces enfants quand ils seront adolescents, puisqu'ils ne se seront jamais affrontés à la moindre barrière.
Merci Jean-Baptiste. C'est vrai que c'est dit. Alors vous êtes là tous les deux, mais c'est difficile de dire non. C'est difficile de surmonter une crise.
Et pourtant, c'est nécessaire.
Oui, mais c'est.
Ça, c'est tout à fait indispensable.
Bon, d'accord. Lucette, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, vous lui jetez un verre d'eau.
Oui. Enfin, pas tout plein, hein, pas tout plein. Mais écoutez, quand vous dites non à un enfant et qu'il se rebelle et qu'il vous fait un caprice, et la première fois il est devenu tout bleu, moi ça m'a fait peur, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose, donc j'avais un verre d'eau, je l'ai jeté à travers la figure, ça a été radical. Et par la suite, quand il y avait comme ça ces caprices où vraiment on veut pas céder et qu'on veut maintenir son autorité, j'étais seule avec lui, et ben c'était le fond de verre d'eau. Et c'était très efficace parce qu'à la fin, je n'avais qu'à prendre le verre vide et la carafe à côté et ça s'arrêtait tout de suite.
Merci Luc. Alors vous pensez quoi de cette technique, l'un et l'autre, rapidement Est-ce qu'il faut faire un acte quand même? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut agir?
Je pense simplement que c'est la preuve tout à fait évidente du fait que la violence existe chez l'enfant et qu'il en est traversé. Et que cette personne a trouvé ce moyen de contre-violence. Mais la meilleure manière de faire n'est pas de dresser une violence sous la forme d'un châtiment, de quelque ordre qu'il soit, y compris le verre d'eau, mais véritablement de prendre une décision qui coûte très cher à l'enfant, c'est-à-dire, encore une fois, couper la communication. Ça suffit amplement.
Vous êtes d'accord, Olivier Morel, avec cette idée de dire oh, je coupe la... En fait, je fais du boudin à mon enfant.
Voilà, non, je boude.
Non.
Je l'envoie dans la chambre. Va dans ta chambre. Voilà, et voilà.
Je ne suis pas d'accord. Il se trouve que quand nous avions 5 enfants petits, nous avons employé une méthode qui était un peu proche, mais quand même différente de ce que dit le docteur. On avait instauré ce qu'on appelait un pleuroir.
Donc, un pleuroir.
Une pièce où l'enfant pouvait pleurer. Quand vraiment l'enfant, on ne voyait plus pourquoi il pleurait, on l'avait interrogé, apparemment il n'y avait pas de raison véritable. On disait, écoute, tu nous casses les oreilles, on en avait 5, hein, je dois dire. Tu nous casses les oreilles, va au pleuroir et tu sortiras quand tu veux. Bon, maintenant je pense que ça n'était pas une bonne méthode parce que dans ce cas-là, on n'accompagne pas les émotions qu'éprouve l'enfant et qu'à mon avis, il faut mieux les écouter. Je voudrais insister sur le fait, à propos de la difficulté à dire non, sur le fait qu'on est dans une période, à mon avis, charnière. Une période où on a pris conscience du fait que c'était pas normal de frapper les enfants. Progressivement, ça se fait, ça s'instaure, même si c'est lent, même si c'est difficile. Mais on a, justement, l'État n'a absolument rien fait pour donner d'autres méthodes que cela. Et c'est justement ce que nous demandons.
Que l'État intervienne ?
Moi, personnellement, je suis partisan de l'interdiction. Ce qui s'est fait dans 23 pays déjà, hein, et donc interdiction des punitions corporelles, pas des sanctions, hein, parce que les sanctions, elles existent déjà dans le code pénal, les sanctions. Et elles sont terribles, elles sont inapplicables, d'ailleurs, précisément parce qu'elles sont très, très sévères, extrêmement sévères. Par contre, nous demandons que dans le code civil, il y ait une interdiction claire, qui dise on n'a pas plus le droit de frapper les enfants que de frapper les personnes âgées ou de frapper les femmes. C'est interdit. Ce sont des êtres humains, c'est interdit. Mais nous demandons qu'il y ait un accompagnement des parents pour passer justement à un autre mode d'éducation. Et ça, ben, jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait.
Mais quand vous allez faire votre accompagnement de parents, il va falloir que vous trouviez des super parents. Alors, qui vont être ces super-parents? Tout ce système-là ne fait rien d'autre qu'une chose, c'est infantiliser les parents.
Pour vous,
le métier de parent encore plus difficile.
Moi, pour vous, Aldenori, l'intervention de l'État infantilise les parents?
Absolument.
Moi, je crois
absolument, je ne vois pas. Mais écoutez, on va commencer par là. Hein. L'État va intervenir et ça ne va pas. On va laisser courir, d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer à l'horizon perfectionniste de nos systèmes? Eh bien, un jour, il faudra passer un permis pour être parent, comme on aura un permis de conduire.
Mais non.
Mais si, allons.
Ouais, mais tout à coup, je suis en train de me dire
on est tous devenus parents sur le tas, c'est-à-dire avec la manière dont nous avons été élevés nous-mêmes, et on se retrouve avec des enfants, sans avoir du tout réfléchi.
Mais on n'a pas, mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Je vous pose la question de qui va éventuellement accompagner les parents? Qui? Vous, bien entendu.
Depuis la nuit des temps, on excise les petites filles dans certains pays.
Pardon,
est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Oui, on peut. C'est vrai. Quand l'État interdit l'excision,
la nuit des temps, non. Est-ce qu'il est normal de conserver des usages de ce genre? Est-ce qu'il est normal de continuer à frapper les enfants à coups de bâton?
Mais je suis pas en train de. Mais je vous pose la question. Je ne dis pas que c'est normal. S'il vous plaît, je suis contre l'excision. 2, je suis contre le fait de frapper des enfants à coups de bâton, etc. Je dis simplement, quand vous posez la question de l'accompagnement des parents, je dis qui va accompagner les parents? Qui?
Eh bien,
qui va être super parent? Vous?
Mais pour l'instant,
alors évidemment, vous détenez la vérité.
Non, je ne détiens pas la vérité.
J'ai le doigt comme un gosse, moi, non plus. Le résultat des courses, c'est que qui aujourd'hui joue le rôle de super parent, c'est la télévision. Avec des émissions comme Super Nanny.
Oui.
Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux se retourner vers des gens compétents plutôt qu'une télévision qui est là pour gagner
des sous? Mais qui va-t-on décréter comme compétent? Évidemment, les Freudiens sont contestés.
Avec vous deux,
puisque M. Morel estime que la théorie des pulsions, Freud et la psychanalyse, ça n'existe pas. Il n'est pas d'accord avec. Mais ça existe, mais c'est une aberration.
Alors, écoutez, il est moins 10 là, et l'émission, il nous reste assez peu de temps, et je voudrais, pour conclure, vous demander à l'un et l'autre, est-ce qu'on n'a pas une discussion un peu de vieux là? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire c'était mieux avant? Est-ce que le monde n'est pas en train de changer de toute façon, quoi qu'il arrive?
Mais la différence, si vous voulez, entre Monsieur Morel et moi, c'est que moi je viens de dire aux parents, ne doutez pas de ce que vous pouvez. Votre position de parent est suffisante pour imposer à vos enfants votre parole, à condition même que justement vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Point. Je n'ai pas besoin de venir vous infantiliser ou vous accompagner. Vous êtes assez grand pour ça.
Non, parce que je crois qu'il y a quand même une réflexion à avoir et qu'à mon avis, on devrait commencer à avoir dans les établissements scolaires sur la psychologie de l'enfant.
La psychologie de l'enfant, les pulsions n'existent pas. Pourquoi voulez-vous faire de la psychologie?
Mais non, mais justement, il n'y a pas de pulsions.
La psychologie, c'est entièrement
il existe des choses dont vous ne parlez jamais dans vos livres. Il existe, par exemple, le fait de l'attachement qui est fondamental chez les enfants.
Oui, et l'attachement est
qui peut être fortement perturbé par une éducation autoritaire. Il existe des choses comme l'empathie, par exemple. Oui. Il existe des choses comme l'imitation. Tout cela, ce sont des compétences de l'enfant, des compétences innées de l'enfant un être dont le cerveau est câblé pour être un être social. Vous, vous en faites, et la théorie des pulsions aussi, en fait un être dangereux qui veut tuer son père, qui veut coucher avec sa mère, qui veut apporte la toute puissance sur les parents d'excellent dans les enfants.
Non, mais tout cela n'exclut pas le reste. L'excellent ne vient que à partir du moment où quelque chose survient qui permet à l'enfant de pouvoir résister à l'extraordinaire violence qu'il traverse.
Je regrette, c'est dès le départ et c'est même déjà chez les animaux. L'empathie, l'imitation, l'attachement, c'est déjà chez les singes et donc c'est quelque chose qui est inné, et c'est pas quelque chose qui vient de l'éducation. Oui. C'est dans leur cerveau. Et donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de favoriser le développement des enfants en établissant avec eux une relation qui soit une relation d'empathie, de bienveillance, de confiance. Mais ça suppose effectivement que nous ayons confiance en nous et que nous soyons capables de dire non quand c'est nécessaire. Oui.
Je le retiendrai de cela parce que justement l'heure tarde, que ce que vous venez de dire, à condition que nous ayons confiance en nous. Oui. Et je dis, voilà le message qu'il est fondamental de donner à tous les parents, qu'ils soient déjà parents ou qu'ils pensent devoir le devenir un jour. Ayez confiance en vous. Oui. Et ne vous en laissez pas compter, ni par Monsieur Morel, ni par Monsieur Naouri.
Le problème.
mais justement, moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'est pas tous en train de se tromper? Parce que tout ça repose aussi sur une histoire de frustration, de plaisir, de désir vis-à-vis de l'enfant. Il faut mettre des limites, il faut mettre des barrières. Est-ce qu'on est sûr que les enfants aujourd'hui, dans un monde où justement, comme vous le dites, Monsieur Naouri, les barrières sont tombées, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont pas plus heureux? Est-ce que les enfants sont pas plus heureux aujourd'hui que nous ne l'étions nous quand on était petits? Après tout.
Moi, je le crois. Mais
Je n'ai qu'une expérience de pédiatre de 40 ans.
Oui.
Je dis que entre le début de ma carrière et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'ils soient plus heureux.
Alors, je la pose différemment. Est-ce que finalement, ils sont pas mieux armés?
Non, beaucoup moins.
Vraiment, vous pensez? Ah, oui. Vous êtes sûr?
Absolument. Beaucoup, beaucoup moins.
Et vous, je ne le crois pas personnellement. Je crois que les enfants qui ont été respectés, comme le dit Alice Miller, qui est la cause que je sois là, parce que c'est elle qui m'a véritablement fait prendre conscience de ces problèmes.
Tiens, c'est marrant, les psychanalystes.
Comme le dit Alice, oui, mais elle a renoncé à la psychanalyse.
C'est avec qui, on a eu une discussion
terrible sur la psychanalyse. Alice Miller dit que les enfants qui sont respectés apprennent à respecter, les enfants qui sont aimés apprennent à aimer, les enfants qui sont tolérés apprennent à tolérer.
Puisque vous avez été un de mes lecteurs, monsieur Morel, vous avez bien vu que le premier chapitre de tout ce qui est pratique, c'est respecter l'enfant.
Oui, d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous.
une dernière chose, vous parlez beaucoup de la frustration.
Oui, la frustration, ça consiste simplement, mais là encore une fois, à justement mettre l'enfant à sa place. C'est-à-dire que lorsque, si vous voulez, le couple parental veille d'abord à son union et à l'importance que chacun des deux a pour l'autre, l'enfant, à ce moment-là, sait très bien qu'il n'a pas sa mère 100% pour lui. Et ça établit la frustration symbolique qui est fondamentale pour tout le reste.
Donc le couple avant l'enfant.
Le couple avant l'enfant.
Et comment on fait dans un monde où il y a de moins en moins de couples?
En général...
je suis désolé, mais il y a 7 mariages sur 10
qui sont en général, il en faut un pour faire un enfant, en principe.
Oui, mais après...
Bon, alors, le problème est là. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la relation de couple? Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, la relation d'adulte à adulte? C'est un problème dont j'ai traité déjà dans un livre précédent qui s'appelait Adultère. Jusqu'à quel point, justement, nos sociétés de consommation et la direction qu'elles ont prise ont véritablement, de ce côté-là, fait pas mal de ravages.
Oui, parce que je veux bien, mais il faut que les parents aient confiance en eux, il faut pas qu'ils doutent,
il y a de moins en moins de couples, je dis que une mère qui vit seule avec son enfant doit simplement penser en premier lieu qu'elle ne l'a pas fait toute seule. n'est-ce pas? Et que un père qui ne vit plus avec la mère de son enfant et son enfant doit tout à fait être vigilant à ce que cet enfant-là puisse ne pas disposer de sa mère à 100% et donc voir d'un œil relativement sympathique que cette femme refasse sa vie. Et que le nouvel homme de cette femme puisse, en définitive, prendre le relais de sa place qu'il n'occupe plus.
Moi, personnellement, ce qui m'a un peu gêné dans ce que vous dites de la frustration, c'est que vous lui donnez quand même un sens beaucoup plus général que cela, et même que vous ne faites aucune distinction entre désir et besoin. Je comprends qu'on ne satisfasse pas tous les désirs des enfants, et ça je suis même un partisan, je crois qu'il faut les laisser satisfaire eux-mêmes leurs désirs et pas les devancer, ni à plus forte raison les saturer, mais les besoins, que ce soit les besoins physiques, que ce soit les besoins affectifs, que ce soit les besoins cognitifs qui supposent des explications, ça doit être satisfait, et ça ne doit pas être frustré.
Ça, c'est le téléphone de Dr Naouri.
Pardonnez-moi.
Vous êtes cadre un point.
Oui, excusez-moi. Je suis d'accord avec vous qu'il est fondamental que de toutes les façons les besoins soient satisfaits.
Oui, mais comme vous dites à un moment, rien ne lui est dû à l'enfant, ça m'a un peu choqué, j'avoue.
Ah oui, au sens du dû.
Ben si, non, c'est,
non,
on lui doit,
non,
on
au sens symbolique, au sens symbolique. Mais non, mais là encore une fois, on retombe dans quelque chose qui consiste éventuellement à dire, il n'a pas demandé à venir au monde, donc il faut que je me mette à genoux devant lui.
Non,
et merde, on lui a donné la vie. Vous prouvez que c'est pas énorme.
Bah oui, mais
c'est énorme.
Si on se contente de ça.
Et là, il va falloir qu'on y aille parce que donc, je voulais quand même avoir juste votre avis aussi à tous. Je crois que vous êtes d'accord. Aux États-Unis notamment, on est de plus en plus dans la médicalisation des enfants. Toutes les histoires de calmants, de médicaments.
Oui, ça nous menace. Mais justement. Ça nous menace.
C'est aussi dangereux que la maladie.
L'épidémie d'enfants hyperactifs, elle est à notre porte.
Ouais. Ah, vous pensez que ça va arriver?
Oui, ça va venir. Bon. Dans une quinzaine d'années.
Merci pour l'optimisme. merci beaucoup à tous les deux d'être passés. Je rappelle, donc, Aldo Naouri, le dernier livre s'appelle Éduquer ses enfants, l'urgence aujourd'hui. Olivier Morel, le livre La Fessée, questions sur la violence éducative. Et on a mis des liens, bien sûr, sur le site de l'émission avec votre association, Olivier Morel, et avec votre éditeur. Aldo Naouri.